Deux perspectives de la nature. Le vaisseau sur lequel nous passions en Amérique s'étant élevé au-dessus du gisement des terres, bientôt l'espace ne fut plus tendu que du double azur de la mer et du ciel, comme une toile préparée pour recevoir les futures créations de quelques grands peintres. La couleur des eaux devint semblable à celle du verre liquide. Une grosse houle venait du couchant, bien que le vent soufflât de l'est, d'énormes ondulations s'étendaient du nord au midi et ouvraient dans leurs vernes de longues échappées de vue sur les déserts de l'océan. Ces mobiles paysages changeaient d'aspect à toute minute. Tantôt, une multitude de tertres verdoyants représentaient des sillons de tombeaux dans un cimetière immense, tantôt des lames, en faisant moutonner leurs cimes, imitaient des troupeaux blancs répandus sur des bruyères. Souvent, l'espace semblait borné, faute de point de comparaison, mais si une vague venait à se lever, un flot à se courber comme une côte lointaine, un escadron de chiens de mer à passer à l'horizon, l'espace s'ouvrait subitement devant nous. On avait surtout l'idée de l'étendue lorsqu'une brume légère rampait à la surface de la mer et semblait accroître l'immensité même. Oh, qu'alors les aspects de l'océan sont grands et tristes! Dans quelle rêverie il vous plonge, soit que l'imagination s'enfonce sur les mers du Nord, au milieu des frimas et des tempêtes, soit qu'elle aborde sur les mers du Midi à des îles de repos et de bonheur. Il nous arrivait souvent de nous lever au milieu de la nuit et d'aller nous asseoir sur le pont où nous ne trouvions que l'officier de quart et quelques matelots qui fumaient leur pipe en silence. Pour tout bruit, on entendait le froissement de la proue sur les flots, tandis que des étincelles de feu couraient avec une blanche écume le long des flancs du navire. Dieu des chrétiens, c'est surtout dans les eaux de l'abîme et dans les profondeurs des cieux que tu as gravé bien fortement les traits de ta toute-puissance. Des millions d'étoiles rayonnant dans le sombre ou le dôme céleste, la lune au milieu du firmament, une mer sans rivage, l'infini dans le ciel et sur les flots. Jamais tu ne m'as plus troublé de ta grandeur que dans ces nuits où, suspendu entre les astres et l'océan, j'avais l'immensité sur ma tête et l'immensité sous mes pieds. Je ne suis rien, je ne suis qu'un simple solitaire. J'ai souvent entendu les savants disputer sur le premier être, et je ne les ai point compris. Mais j'ai toujours remarqué ce que c'est à la vue des grandes scènes de la nature que cet être inconnu se manifeste au cœur de l'homme. Un soir, où il faisait un profond calme, nous nous trouvions dans ces belles mers qui baignent les rivages de la Virginie. Toutes les voiles étaient pliées. J'étais occupé sous le pont lorsque j'entendis la cloche qui appelait l'équipage à la prière. Je me hâtais d'aller mêler mes vœux à ceux de mes compagnons de voyage. Les officiers étaient sur le château de Poupe avec les passagers. L'aumônier, un livre à la main, se tenait un peu en avant d'eux. Les matelots étaient répandus pêle-mêle sur le tillac. Nous étions tous debout, le visage tourné vers la proue du vaisseau qui regardait l'Occident. Le globe du soleil, prêt à se plonger dans les flots, apparaissait entre les cordages du navire au milieu des espaces sans bornes. On eût dit, par les balancements de la poupe, que l'astre radieux changeait à chaque instant d'horizon. Quelques nuages étaient jetés sans ordre dans l'Orient, où la lune montait avec lenteur. Le reste du ciel était pur. Vers le nord, formant un glorieux triangle avec l'astre du jour et celui de la nuit, une trombe, brillante des couleurs du prisme, s'élevait de la mer comme un pilier de cristal supportant la voûte du ciel. Il eût été bien à plaindre celui qui, dans ce spectacle, n'eût point reconnu la beauté de Dieu. Des larmes coulèrent malgré moi de mes paupières, lorsque mes compagnons, ôtant leurs chapeaux goudronnés, vinrent à entonner d'une voix rauque leur simple cantique à Notre-Dame de Bon Secours, patronne des mariniers. Quelle était touchante la prière de ces hommes, qui, sur une planche fragile au milieu de l'océan, contemplait le soleil couchant sur les flots. Comme elle allait à l'âme, cette invocation du pauvre matelot à la mer de douleur. La conscience de notre petitesse à la vue de l'infini, nos chants s'étendant au loin sur les vagues, la nuit s'approchant avec ses embûches, la merveille de notre vaisseau au milieu de tant de merveilles, un équipage religieux saisi d'admiration et de crainte, un prêtre auguste en prière, Dieu penché, sur l'abîme d'une main retenant le soleil aux portes de l'Occident, de l'autre élevant la lune dans l'Orient et prêtant à travers l'immensité une oreille attentive à la voix de sa créature. Voilà ce qu'on ne saurait peindre et ce que tout le cœur de l'homme suffit à peine pour sentir. Passons à la scène terrestre. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Une heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée que cette reine des nuits amenait de l'Orient avec elle semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa courbe azurée, tantôt il reposait sur des groupes de nues qui, ressemblant à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Ces nues, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bandes d'une ouate éblouissante, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Après, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalle, on entendait les sourds mugissements de la cataracte du Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans nos océans de forêt, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves et, pour ainsi dire, à se trouver seule devant Dieu.